Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8. Et on va lire du verset 1er au verset 4. L'Ecclésiaste au chapitre 8. Il est écrit: qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira « Que fais-tu ?» On voit dans ce texte qu'il nous est parlé d'un roi. Et il nous est dit, il y a des conseils qui sont donnés, observe les ordres du roi. C'est le conseil qui est donné. Pourquoi ? Ne te hâte pas de t'ordonner, de t'éloigner. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. Pourquoi ? Car il peut faire tout ce qui lui plaît, parce que la parole du roi est puissante. Et c'est vrai. Et qui lui dira que fais-tu ? On imagine bien qu'un roi, celui qui est assis sur son trône, à un moment, quand il a décidé quelque chose, c'est ce qui va arriver. Vous êtes d'accord avec moi ? On imagine, on voit le roi David, par exemple, quand il avait donné une sentence, quand il avait fait un décret, une loi, tout le monde obéissait à la loi, parce qu'il était roi. C'est lui qui décide, le roi. C'est celui qui obéit aux règles. C'est le roi. Et il nous a donné ce conseil d'obéir au roi et de ne pas persister quand il dit que quelque chose est mauvaise parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Et la première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble ce soir, c'est que, oui, il y a un roi, mais il y a un roi qui est Dieu. Dieu est un roi. À un moment dans la Bible, c'est Dieu qui va parler, c'est dans Ésaïe au chapitre 66, verset 1er. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?» On voit vraiment que Dieu dit que le ciel est son trône. C'est là où il siège, c'est là où il règne. Et que la terre, c'est quoi ? Son marchepied. On voit la grandeur du roi. Ça veut dire que le plus grand du plus grand du plus grand du plus grand roi sur cette terre, il n'est pas plus haut que sous ses pieds. Dieu est un grand roi et le ciel, c'est son trône. Il nous est dit dans le psaume 29, verset 9, « Dans son palais, tout s'écrit gloire. » Et oui, il a un palais dans le ciel. Et dans ce palais, tout s'écrit gloire. Tout est pour sa gloire. Il est infiniment élevé, c'est indescriptible. Dans le psaume 45, verset 7, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Il a un sceptre. Vous savez, le sceptre, c'est le symbole du commandement. Vous savez, quand ils allaient à la guerre, il suffisait juste d'un mouvement du sceptre et tout s'enclenchait. Le sceptre, c'est vraiment le symbole de la puissance. On voit un moment la reine Esther, quand elle se présente devant le roi, c'est seulement si le roi baissait le sceptre vers elle qu'elle savait qu'elle pouvait conserver la vie. Il a un sceptre. On voit, il y a des textes qui nous parlent qu'il a une couronne. Dans le psaume 104, il est écrit « Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Il est revêtu, il a des habits royaux. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Vous avez vu combien c'est glorieux, combien il est puissant, combien il est grand. À un moment, Ésaïe aura une vision de Dieu. Et c'est écrit que tous les pans de son vêtement remplissaient le temple. C'était glorieux. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il y a cette image, vous savez, quand il y a les orages qui viennent, quand ça gronde, qu'on voit l'orage qui arrive, c'est son char. Combien il est puissant, combien il est grand. Dans le psaume 76, tu es redoutable au roi. Qui peut te résister quand ta colère éclate ? Qui peut résister à Dieu ? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Et c'est ce qui se passe quand Dieu parle. Il suffit d'un mot de lui et tout le monde se tient tranquille. Il nous est dit dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, là aussi, c'est une vision de Dieu, de Jésus. Il est dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Il est le roi des rois. Il y a ceux qui dominent et il y a celui qui domine ceux qui dominent. C'est Dieu. Il nous est dit qu'il règne sur les nations. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Et on voit au final que les nations, un nombre des millions et des millions de personnes, des fois on pense que chaque nation a le pouvoir entre ses mains. Ils font des élections et tout et tout. Mais on voit au final que c'est Dieu qui domine. Vous savez qu'il a déjà dit comment ça allait finir. Et quoi qu'en veuillent les nations, ça finira, comme il a dit, que ça finisse. Il est dit dans Daniel 2, 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui domine toutes choses. Dans Colossiens 1, 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui est puissant sur cette terre, ce qui est visible, tout ce qui est puissant et qui est invisible, les anges, les autorités, toutes ces choses-là, il les domine. Ça a été fait pour lui. Et c'est par lui que ça a été fait. Et même si la terre, elle était bouleversée, Dieu continue de régner. Dans Psaume 29, verset 10, il est écrit que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Il règne, il a toujours régné et il règnera toujours. Que ça fasse plaisir ou que ça fasse pas plaisir, Dieu, il règne. Il est le Créateur, nous sommes les créatures. Lui seul est Dieu. Dans le Psaume 145, verset 13, c'est écrit « Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. » Il est Dieu, il est tout-puissant. Il dit, et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Il appelle les choses qui ne sont pas, et elles sont. Il a dit comment ça allait finir, on l'avait vu samedi dernier, et ça finira, comme il a dit que ça finira. Il a autorité, il est roi. C'est un roi tout-puissant. C'est notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Mais ce qui est beau, c'est de voir que ce roi tout-puissant, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, il est venu. Et le roi, il est venu au milieu de nous. Comme un roi qui, dans une nation, descendrait de son trône et puis irait un petit peu incognito se promener dans la rue, dans les rues, ben c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il nous est dit dans Luc chapitre 2 que quand il va venir dans le monde, quand Jésus va naître au travers de la Vierge Marie, Il va dire au berger, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et plus loin, il est dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Quand Jésus est venu, le ciel entier a chanté sa gloire. C'est quelque chose. Pour un enfant qui naît. C'est parce qu'il était Dieu et qu'il est venu. Dans Hébreux 1, verset 6, il va dire à ses anges, quand il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges ont adoré Jésus quand il est venu dans le monde. Dans Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, donc celui qui domine, c'est le roi, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Lorsqu'il est né, il y a aussi des mages qui sont venus d'Orient et qui arrivèrent à Jérusalem. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 2, au verset 2. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi? Ils savaient, ça avait été annoncé, le roi. Et quand ils l'ont trouvé, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et adorèrent. C'est particulier quand même. Des personnes qui sont sages, qui ont de l'intelligence, et ils vont se prosterner devant un enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant est Dieu. Cet enfant est roi. Et ils vont lui offrir ce qu'on offre au roi, des présents d'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, le roi, il est venu sur la terre. Il est venu. Ce Dieu tout-puissant, celui qui peut tout, qui a tout, a accepté de venir. Il nous est dit dans Philippiens qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu, mais qu'il s'est dépouillé lui-même et qu'il est venu et qu'il s'est rendu semblable à un homme. Et on peut se poser la question, mais comment en fait les hommes se sont comportés avec ce roi? Une bonne question. On voit que certains ont accepté que Jésus était le roi. Par exemple, dans Jean au chapitre 1er, il est écrit au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean, donc Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et qui lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il va dire qu'on a retrouvé celui qui a reçu l'onction. C'était le roi à l'époque. Et le Messie, c'était plus qu'un roi. C'était vraiment un roi qui devait amener la paix sur la terre. C'était Dieu lui-même qui venait. Et les Juifs savaient qu'en disant que Jésus était le Christ, ça voulait dire cela, ça voulait dire qu'il était roi. Et on voit qu'ils vont le suivre, qu'ils vont se soumettre à lui, qu'ils vont devenir des disciples. Ça veut dire qu'ils vont accepter que Jésus soit le Seigneur de leur vie. Dans Jean, pareil, dans ce même chapitre, au verset 49, Nathanaël répondit à Jésus, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » À un moment, un aveugle qui retrouvera la vue, c'est dans Jean au chapitre 9. À un moment, Jésus va le retrouver et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et vous savez que pour un juif, se prosterner, ça voulait dire adorer. Pour moins que ça, enfin des juifs, par exemple, quand on prend l'histoire de Daniel, les amis de Daniel n'ont pas voulu se prosterner devant Nebuchadnezzar parce qu'ils ne le reconnaissaient pas comme leur Dieu, comme leur Seigneur. Là, cet homme va se prosterner devant Jésus. Il va reconnaître sa royauté. Et Thomas, quand il va voir Jésus ressuscité, il va lui dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Il va dire « Mon Seigneur, le mien ». Ça veut dire que j'accepte que tu sois mon roi. En d'autres termes, on pourrait dire, ces hommes-là, ils ont reconnu que la couronne, le trône, le sceptre, la majesté, la gloire, l'autorité dans leur vie, c'était à Jésus qu'ils l'ont donné. Le sceptre pour leur vie, c'était à Jésus qu'ils l'ont donné. Le trône de leur vie, c'est à Jésus qu'ils l'ont donné. La couronne, tout ce qui peut faire leur gloire, la gloire d'une vie, c'est à Jésus qu'ils l'ont donné. Ils se sont soumis à Jésus et ils l'ont choisi pour être leur roi, parce qu'ils ont cru. Et s'il y avait une couronne qui était sur leur tête, ils l'auraient donnée à Jésus. S'ils étaient assis sur un trône, c'est-à-dire qu'avant ils choisissaient, ils décidaient des choses pour leur vie, ils ont choisi que ce soit Jésus qui soit assis sur le trône. Ils l'ont fait roi de leur vie. Et tout comme à un moment le peuple d'Israël avait été allé chercher David pour qu'il règne sur eux, ils seraient tous allés chercher Jésus pour qu'il règne sur eux et sur leur vie particulièrement. Et on voit que ces hommes, pour eux, Jésus, ce n'était pas un roi, mais c'était leur roi. C'était lui qui dirigeait. C'est lui qui dirigeait. Mais par contre, on voit qu'il y a d'autres personnes qui, elles, n'ont pas accepté Jésus, mais qui l'ont rejeté. Et on peut aller ensemble lire Matthieu au chapitre 27 et au verset 27. Il est écrit... Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus, donc Jésus c'est le roi, dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Effectivement, il y avait une multitude qui était venue autour de lui. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Effectivement, il y a une couronne. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Effectivement, il y avait un sceptre. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Rappelez-vous, c'est le Dieu Tout-Puissant, celui dont on a parlé tout à l'heure. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Eh oui, c'est pas du tout la même chose. La couronne qu'ils lui ont donnée, c'est une couronne d'épines. Le sceptre qu'ils lui ont donné, c'était un roseau pour se moquer. Les louanges, la gloire qu'ils lui ont donnée, c'était des moqueries, des crachats. On peut aller plus loin et on voit dans Jean, à un moment, il nous est dit au chapitre 19, au verset 14, c'était la préparation de la Pâque, environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Même Pilate l'a dit. « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, mais crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quelle différence! Ils n'ont pas voulu que Jésus règne sur leur vie. Ils ont rejeté le roi. Ils n'ont pas voulu de son autorité, mais au contraire, ils l'ont méprisé, ils l'ont maltraité. Ils l'ont meurtri. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Mais lorsque Pierre va parler à cette même foule qui était là, il va leur dire « Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville » avec les nations et avec le peuple d'Israël. C'est vrai qu'on ne l'a pas lu, mais on voit aussi Hérode. Lui, il était roi, mais il était en face du roi des rois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a dit qu'il l'a traité avec mépris, alors qu'il avait le roi. Et on voit un autre roi, le roi David, qui, quand il va parler de Dieu, va dire « mon roi ». Quelle différence! On voit vraiment qu'au final, soit on accepte Jésus comme roi, soit on le méprise, on le rejette. Et ce qu'on lui donne, ce n'est non pas la gloire, mais ce qu'on lui donne, c'est des couronnes d'épines et un roseau. Mais dans Acte 26, donc, il est écrit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. » Mais il est écrit « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Et on voit au final que malgré le fait que ces hommes se sont comportés de cette manière-là, ça faisait partie d'un plan que Dieu avait arrêté, qui avait été choisi d'avance. Et on voit que la croix, ce n'était pas quelque chose que Jésus a subi, c'est quelque chose que Jésus a choisi. Il dira dans Jean au chapitre 10, au verset 18, en parlant de sa vie, « Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et on voit que oui, si Dieu a accepté ces choses, c'est parce que si Jésus a accepté ces choses, c'est pas parce qu'il était obligé, mais il l'a fait volontairement. On voit un moment quand on vient l'arrêter qu'il va dire à un de ses disciples, mais ne sais-tu pas que j'ai des légions d'anges que je pourrais appeler? Et oui, tous les anges étaient sous son commandement, hein. Il était roi. Et à chaque moment, à chaque instant, il aurait pu tout arrêter. Une seconde avant qu'il meure, il disait stop, allez, légion d'anges, intervenez. C'était fini. Hein. Jérusalem était rasée. Le monde pouvait être rasé, juste sur un commandement de sa. Un ordre qui sortait de sa bouche. Mais qu'a dit Jésus? Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la beauté de la croix, c'est qu'au final, Jésus était en train de prendre la couronne d'épines et le roseau pour que justement ceux qui lui donnaient la couronne d'épines et le roseau n'aient pas à subir cela. Dieu a utilisé ceux qui étaient contre lui pour accomplir son plan. Et quand Dieu veut faire quelque chose, que ce soit ceux qui sont pour lui ou que ce soit ceux qui sont contre lui, Dieu utilise tout pour accomplir sa volonté. Personne ne peut faire quoi que ce soit contre Dieu. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Il avait dit, et ça avait été prophétisé, il suffit de lire Ésaïe 53 des milliers d'années avant, qu'il mourrait, qu'il serait rejeté, mais qu'il aurait une postérité et que tous ceux qui croiraient en lui seraient sauvés, et il l'a fait. Et c'était un plan qui devait venir, mais ça a mis en lumière deux choses. Des personnes qui l'avaient choisi comme roi et des personnes qui le rejetaient comme roi. Mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il voulait pardonner. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Jésus a livré son corps, a accepté que son sang coule pour pardonner les péchés. Et au final, Jésus est un roi, oui, mais c'est un roi qui a accepté, par amour, de laisser une couronne de gloire pour une couronne d'épines, un sceptre de puissance pour un roseau cassé, un palais où tout s'écrit « gloire » contre un prétoire et un sanhédrin où on l'insulte, on le frappe et on se moque de lui. Le char qu'on a vu sur le vent, sur les nuées, pour un ânon. Et il a fait ça uniquement, bien qu'il ait toute cette puissance, parce qu'il nous aimait et parce qu'il voulait qu'on soit pardonné et parce qu'il voulait qu'on comprenne que sans lui, ça ne peut pas marcher. Sans lui, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux. Jésus l'a fait pour eux, Jésus l'a fait pour toi. Et ce soir, Jésus-Christ est le même. Et ce qu'il a fait pour les hommes à l'époque, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'était aussi pour nous. On l'a chanté tout à l'heure, la croix, c'était pour moi. Alors maintenant, je vais vous poser cette question. De quel côté êtes-vous ? Êtes-vous de ceux qui choisissent Jésus pour leur roi ? Ou êtes-vous de ceux qui disent « ôte, ôte, crucifie-le, on n'en veut pas ». La question c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce Dieu plein d'amour, que de ce roi tout-puissant qui a accepté de tout quitter pour aller sur cette croix ? Qu'allez-vous faire de lui ? À un moment, c'est ce que Pierre va dire à la foule, et il va dire que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Toulouse y compris. Ce soir, la repentance c'est quoi ? La conversion c'est quoi ? C'est choisir que le roi de ma vie c'est plus moi, le roi de ma vie c'est Jésus. Se convertir à Christ c'est quoi ? C'est arrêter de mépriser le roi qu'il est, arrêter de lui donner aucun égard comme l'a fait Hérode, croire qu'on est notre propre roi, mais c'est le choisir comme son roi. Et au final on a le choix. Qu'est-ce qu'on veut apporter à Jésus ? Est-ce qu'on veut lui apporter la couronne de gloire, ou est-ce qu'on veut lui apporter la couronne d'épines ? Et vous savez, c'est pas simplement dire, là maintenant je m'adresse aux chrétiens, dire que Jésus c'est notre roi, c'est pas simplement dire Jésus c'est mon roi. Dire qu'il règne, ça veut dire que c'est faire ce qu'il a dit. Si le roi a dit pardonner et qu'il est mon roi, alors je pardonne. Si le roi a dit « aimez-vous les uns les autres », vous savez, quand c'est parlé du royaume de Dieu, il ouvrit la bouche et il parla du royaume. Le royaume, c'est là où il règne. S'il a dit « aimez-vous les uns les autres », s'il est roi, je vais le faire. S'il a dit « soumettez-vous », s'il est roi, je vais le faire, parce qu'il est roi, et parce que c'est lui qui règne et qui domine dans ma vie. Et on sait que Jésus reviendra. Et que lorsqu'il reviendra, ça sera non pas sous la forme dont il est venu, c'est quand c'est écrit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais il reviendra en gloire, avec éclat. Et à ce moment-là, la question est, mais de quel côté je serai ? Est-ce que ça sera mon roi qui revient et qui reviendra pour moi ? Ou est-ce que ça sera celui dont je ne veux pas de place dans ma vie ? C'est la question qu'il faut se poser. Et j'aimerais juste finir avec ce psaume, le psaume 24. Dans ce psaume, il est parlé de portes éternelles. Alors, qu'est-ce que c'est que ces portes éternelles ? Je me suis posé la question. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ce psaume, ça parle de lorsque Jésus est remonté au ciel, et que les portes du ciel, les portes éternelles, ont laissé entrer Jésus, je pense. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi fasse son entrée. Et c'est sûr que lorsque Jésus a dû remonter au ciel, qu'est-ce que ça a dû être ? Je pense que tous les anges prosternés, et hop, il est remonté à la droite du Père. Ça a dû être quelque chose de glorieux. Quand il est remonté et que les anges ont vu l'amour de Dieu pour les hommes, qu'ils ont vu les mains trouées, les pieds troués, le côté, ça a dû être quelque chose. Hein. Mais je pense aussi que ce texte, on peut le prendre comme les portes de notre cœur. Parce que ce qu'on veut, c'est que Jésus soit roi dans notre cœur. Et voilà ce qui est dit au verset 7, psaume 24, verset 7. « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Est-ce que ces paroles-là, je peux les faire miennes? Que dans ma vie, que dans mon cœur, les portes s'ouvrent, que le roi qui est Jésus puisse rentrer et régner sur ma vie. Et qu'au final, ça soit sa parole qui est autorité dans ma vie. C'est ça un disciple. C'est ça être converti. C'est plus moi qui dirige, mais j'ai choisi que Jésus soit mon Seigneur. Maintenant, c'est lui le roi, et je le fais, et je lui obéis avec joie parce qu'il est mort pour moi. Et que ce n'est pas un roi qui est dur, ce n'est pas un roi qui est méchant, c'est un roi qui est plein d'amour, et tout ce qu'il me dit, tous ses commandements sont bons, sont pour mon bien, et simplement il est roi et je veux lui obéir. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et merci pour ta parole et merci parce que nous avons un roi qui a vraiment accepté de faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire, de réaliser qu'un Dieu si grand et si puissant, que le Dieu qui a tout créé, le créateur de toutes choses, par qui et pour qui sont toutes choses, et accepter de venir, de subir ces choses, de mourir sur cette croix au milieu des malfaiteurs. Par amour pour nous, Seigneur, nous sommes bouleversés et nous voulons de tout notre cœur te dire merci. Et oui, Seigneur, règne sur nos vies, règne sur nos cœurs, et que vraiment toute la gloire te revienne. Seigneur, nous sommes heureux que tu sois roi. Merci parce que tu es ressuscité. Et merci aussi parce que tu reviens. Et Seigneur, merci parce que lorsque tu reviendras, nous serons avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.